Actu SF, les podcasts.
Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathilde, je suis bénévole à Radio Campus Amiens, je vais en même temps en profiter. Je fais une chronique radiophonique sur la science-fiction depuis plus d'un an. Une thématique est mise à l'honneur à chaque mois et vous pouvez retrouver dans Voyage extraordinaire en science-fiction les émissions. Alors je vais vous confesser quelque chose, je découvre la science-fiction en même temps que mes émissions. Et du coup, Philippe Curval, je sais que vous êtes un grand nom de la science-fiction française, c'est indéniable. Tout le monde m'en parle, mais je ne vous ai pas lu. Mais à coup de pas. Donc ça va être une interview un peu particulière. Et c'est pour ça que je vais m'asseoir. Donc il est apparu que vous écrivez de la science-fiction depuis 65 ans. Mais pas que. Apparemment, vous avez écrit d'autres romans. Donc quel genre de choses, par exemple?
De toute façon, pour moi, la science-fiction, c'est un véhicule comme un autre. C'est la littérature. Ça fait partie de la littérature générale. Donc simplement, il s'est trouvé que j'ai été pris dans un mouvement commercial qui a fait qu'on ne pouvait pas publier des livres dehors des collections de science-fiction. C'est ça le problème. Donc en réalité, de toute façon, ce que j'avais l'intention d'écrire, c'était de la science-fiction, mais pas sous ce nom, puisque avant 1950, personne ne connaissait en France, sauf quelques personnes d'âge avancé qui avaient lu des revues américaines dans les années 30. Personne ne savait ce qu'était que la science-fiction. Donc quand c'est arrivé, ça a été un véritable flot, et tout d'un coup, évidemment, on a découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelait comme ça, alors qu'avant ça s'appelait littérature extraordinaire, et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait partie de ceux qui ont organisé un peu et fait conduire la naissance de la science-fiction en France, puisqu'on a créé la première librairie qui s'est occupée du genre, dans lequel il y avait Boris Vian, Raymond Queneau, Michel Carrouge, qui après Michel Butor, Jacques Sternberg, etc. Et donc on a fait une première exposition qui s'appelle Présent du futur et qui a accompagné la naissance des deux revues de science-fiction qui étaient Galaxy et Science-Fiction, qui sont parues à peu près la même année en 1953. Donc à partir de là, moi personnellement, j'avais envie de publier aussi bien chez Gallimard que chez Grasset que chez n'importe qui. Et on a été complètement enfermé par les éditeurs qui avaient décidé que comme le polar, enfin ça s'appelle roman policier à l'époque, ne fonctionnait pas, ont décidé de créer des collections de façon à ce qu'ils aient pouvoir renouveler leur opération commerciale. Donc j'ai lutté moi personnellement avec le réseau Gallimard pendant environ des années. J'ai des lettres de Gaston, de Claude, de tout le monde, pour proposer mes romans de livres de science-fiction chez Gallimard, dans la collection blanche. Et à chaque fois, on disait, bon, il y a une sous-collection, là, vous pouvez publier, là, c'est moins bien, mais c'est plus cher. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à écrire des nouvelles fiction, et puis, il s'est trouvé qu'il y avait le rayon fantastique, et Georges Gallet, qui, lui, était un personnage très cultivé, qui connaissait très bien la science-fiction américaine, qui aimait particulièrement tous les grands écrivains américains d'avant la Renaissance. En 1950, on peut dire que tout a changé avec l'apparition de Galaxy aux États-Unis. C'est là où sont apparus des auteurs comme Sturgeon, comme Shelley, comme Brown, etc., qui ont complètement rompu avec la science-fiction d'autrefois, qui était une science-fiction qui était un peu une science-fiction d'évasion, pas tellement passionnante, sauf dans une revue qui s'appelle Astounding, qui déjà avait commencé à libérer un peu la science-fiction primitive qui était un peu une imitation, il y avait un café d'épée, simplement ça se passait dans l'espace. Donc moi c'était pas mon projet c'était d'écrire une littérature complètement en phase avec son temps, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la littérature de son temps? C'est vraiment écrire sur ce qui se passe autour de soi et ce qui va advenir à partir des découvertes de la technologie qui vont absolument inonder le monde. professeurs étaient des gens qui voulaient, au contraire, faire une symbiose avec l'être humain, puisqu'ils avaient besoin des gens pour les porter, pour les amener. Et eux, ils amenaient leur savoir, leur enrichissement, une espèce de symbiose extraordinaire. Et donc, c'est un roman qui m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, je veux dire que c'est mon seul best-seller, puisque c'est vendu à 120 000 exemplaires.
Donc,
voilà, c'est un aparté. Mais à partir de là, donc, je me suis mis à réfléchir en disant, bon, ben, je ne vais pas imiter la science-fiction américaine, mais je veux faire une science-fiction française particulière, parce que finalement, la science-fiction américaine, on ne peut pas dire qu'elle est dénuée d'aspiration politique, mais quand même, ce n'est pas le principal sujet.
Alors, comment vous définissez la science-fiction américaine et comment vous définissez la science-fiction française ou à la française?
La science-fiction à la française, on peut dire qu'il y a des quantités. Finalement, parallèlement, il y avait la collection du Fleur Noir qui avait commencé, qui prolongeait un peu la science-fiction d'autrefois, c'est-à-dire des romans d'aventure, d'invasion, dans lesquels il y avait des idées de science-fiction, mais dont le principal souci était de divertir le lecteur pour le porter ailleurs. Ce n'était pas tellement des soucis politiques. Bon, il y avait donc le Rayon Fantastique qui, lui, au contraire, essayait de. C'est-à-dire que le Rayon Fantastique, c'est très particulier. D'une part, il y avait Gallimard avec Raymond, avec Pilotin, il s'appelait aussi Stéphane Spriel qui avait écrit des articles dans Esprit. Et d'autre part, il y avait Georges Gallet qui, lui, défendait la science-fiction et la science-fiction autrefois. Et donc, il s'est passé que dans cette collection, il y avait à la fois donc, toute la découverte de Van Damme, de Sir John Bond, etc. Et par ailleurs, Gallet continuait à publier des romans de science-fiction. Évasion et plutôt de space opéra. Donc c'est pour ça qu'il m'a pris tout de suite le ressac de l'espace et le roman d'avant qui s'appelait Les Fleurs de Vénus, dont je ne parlerai pas, puisque c'est un roman d'enfant. En même temps, c'était un roman pour jeunes filles. Il y avait Françoise Daubonne, il y avait une collection qui s'appelait La Série Blonde, qui était pour une espèce de collection légèrement libertine pour tout âge, qui avait créé la collection Séritant. C'était libertin pour jeunes filles de 16-18 ans. Donc j'avais commencé à écrire ce roman pour elle, puis la collection est tombée, et donc je l'ai transformé en un roman sans. C'était de façon un roman sans succès. Enfin, bon, il était un peu écrit pour des jeunes filles, donc je n'y reviendrai pas. Donc le projet donc, était de changer complètement la vision de la science-fiction par rapport à la science-fiction américaine, surtout ne pas l'imiter, bien que. On peut dire que vraiment, si elle a fonctionné en France, c'est parce que tous les gens qui étaient à la librairie de la Balance, que ce soit Jacques Berger, Sternberg, Victor, moi, et tous les gens qui étaient là, nous avons vraiment, dans la revue Fiction, qui était quand même une espèce de revue littéraire, c'est la seule revue littéraire qui ne soit jamais vendue à 25 000 exemplaires, même peut-être elle attache jusqu'à 40 000 exemplaires. Et donc là, on a vraiment fait un travail considérable pour faire découvrir les auteurs américains et en même temps, au bout d'un moment, on a commencé à accepter les auteurs français. Les auteurs jeunes, parce qu'avant, il y avait quelques. Maurice Renaud, qui dirigeait la revue, publiait des nouvelles de Maupassant, un peu fantastiques.
Donc d'abord, tout un travail de traduction et ensuite d'édition.
Voilà. Donc alors, ce qui est arrivé, c'est que Alain Lauré-Mieux a été. Pas nommé, mais a été pris comme rédacteur en chef qui avait notre âge de la revue Fiction, ce qui nous a permis à ce moment-là de publier des nouvelles. Et donc là, on a commencé véritablement à créer ce qu'on peut nommer la science-fiction française, qui a un nombre de variétés considérables. On peut dire que chacun a sa vision de la science-fiction, il y a eu un nombre infini de définitions, et on ne peut pas dire qu'il y en a une qui soit meilleure que les autres, puisqu'on peut dire, on peut parler des science-fiction, puisqu'en réalité, la science-fiction est une littérature extrêmement large, qui couvre tous les domaines, et donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une science-fiction française particulière. Simplement, elle se détache quand même pour les meilleurs auteurs, je me place dedans, sur quand même une réflexion philosophique, une réflexion sociologique, sur le monde en train d'évoluer, et en particulier sur la transformation de la société à cause de l'évolution des technologies et de la science. Ce qui quand même était principalement le sujet qui nous a préoccupé. avec ce qu'elle était. Mais les gens n'en avaient pas conscience. Ils ont vécu les choses au fur et à mesure qu'elles arrivaient.
Et quelle est, imaginons, l'évolution ou l'avancée technologique qui vous a le plus troublé, ému, qui a nourri votre imaginaire?
Oui, c'est ça.
Quelle est peut-être l'invention qui vous a le plus...
Il n'y a pas d'invention particulière, mais de toute façon, tout m'intéressait. Surtout, ce qui était intéressant, c'était l'apparition de la sociologie comme une science.
Tout à fait.
Qui a amené les choses. Donc, surtout, quelques années plus tard, parce que finalement, après un départ considérable qui a été extraordinaire, il y a plus que donc, il y avait déjà Boris Vian et Queneau qui lançaient les choses, les éditeurs qui accompagnaient, ça a eu un succès considérable. Les revues, la collection d'aéro-fantastique, Le Fleuve Noir, représente du futur, vendait des livres à 10, 20, 30 000 exemplaires. Donc, c'était vraiment un succès. Et tout d'un coup, brutalement, on ne sait pas pourquoi, un certain nombre les gens de l'establishment littéraire français ont décrété que c'était une cochonnerie, qu'il fallait absolument pas en parler, que vraiment c'était une sous-littérature et que vraiment il n'était pas question d'aller plus loin et de faciliter. Donc à partir des années 60, il y a eu une espèce d'aplat considérable. Et c'est là que je suis mis à écrire des livres que j'appelle de fiction spéculative, qui m'ont permis d'ailleurs de publier chez Gallimard dans la collection Blanche, La forteresse de Breton. Et j'ai voulu continuer, malheureusement, Gaston, c'était en 1967, juste avant 68. Mon livre est arrivé en 68, Gaston l'a lu, n'a rien compris, il m'a dit, cher monsieur, je suis désolé, mais ça ne correspond pas à ce que nous avons vu auparavant. C'est arrêté là. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que finalement, normalement, je devais... Robert Laffont m'avait appelé pour créer une collection de science-fiction chez lui. Malheureusement, comme je ne parle pas l'anglais, enfin, très très mal, donc je ne pouvais pas lui promettre de traduire des livres de science-fiction américains, et je me chargeais de la science-fiction française. D'ailleurs, je pense que j'avais des projets sur le domaine. Et j'avais demandé à Pierre Versin, lui, qui connaissait bien l'anglais, de venir mon associé, et il a refusé. Donc, j'ai abandonné, et quelques années plus tard, Gérard Klein a pris la place.
Ailleurs et demain.
Donc, fort bien d'ailleurs, parce qu'on avait juré tous les deux d'apprendre l'anglais, lui, parce qu'on avait pris tous les deux l'allemand, parce que pendant la guerre, nos parents avaient dit il vaut mieux apprendre l'allemand, on ne sait jamais. Donc, on a appris l'anglais.
Tout à fait.
Donc, finalement, Gérard, lui, avec un courage considérable, a pris les livres anglais, moi aussi d'ailleurs, mais lui a eu le courage de déchiffrer petit à petit avec des dictionnaires et il a appris un anglais qui n'est pas considérable, mais qui est quand même capable de comprendre ce que c'est qu'un roman et de le choisir pour sa collection. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que finalement, que ce soit Michel Jury, moi, Gérard Klein lui-même, avons commencé à penser la science-fiction telle qu'elle devait être pour la science-fiction française. Et donc, moi, ce qui m'intéressait finalement, puisque ça fait partie justement de l'évolution des mœurs, c'était de voir comment l'Europe allait évoluer. Et donc, mon premier roman a d'abord été un roman sur une vision assez particulière qui est en même temps mélange sur l'ordinateur principal qui, à l'époque, était vraiment la vision. Que tout le monde avait, personne ne pensait, même parmi les auteurs de science-fiction, qu'il y avait des ordinateurs portables, et on pensait qu'il n'y avait que des grands ordinateurs qui allaient régir le monde, aider les gens à progresser. Et donc dans ce roman, c'est finalement, il y a un personnage qui est à la fois le fils d'un être humain, d'une femme et d'un ordinateur, et donc il va essayer de retrouver d'où il est, etc. Donc c'est toute une quête à travers une Europe assez particulière, puisqu'elle est peuplée maison, c'est une espèce d'Europe pavillonnaire, etc. Ça, c'était un premier essai. Puis après, j'ai pensé à ce que l'Europe allait devenir, parce que moi, personnellement, après la guerre, finalement, j'ai toujours pensé, depuis l'âge de 15 ans, d'une part, que nous allions entrer en décadence, que l'Europe allait vraiment, finalement, se résorber peu à peu, que si on ne faisait pas quelque chose, on allait mourir. Et en même temps, que finalement, des problèmes considérables allaient se poser pour la construction de l'Europe, parce que vu la multiplicité publicités des participants au début. Donc il y en avait 7 qui avaient créé le traité de Rome, donc elle avait bien forgé une Europe qui peut-être aurait fonctionné, mais malheureusement elle s'est développée à une vitesse considérable. Et donc j'ai voulu écrire un roman qui parlait de l'Europe de la vie. Donc c'est paru, ça s'appelle Sécher Humanité. Mathias Sechenet l'a republié, puisque j'ai écrit une série de 3 romans sur ce que j'ai appelé le Marcom. Donc c'était le marché commun, et c'était le Marcom qui devenait une entité à part entière. Et donc là-dessus, j'ai dans ce roman, on peut dire que j'ai quand même eu en 72, parce que j'ai commencé à écrire en 72, pas mal de prémonitions, en ce sens donc que dans ce roman, les gens, il y a du vote électronique, les gens ont des swatchs, ça ne s'appelle pas des swatchs, les gens ont des ordinateurs portables, enfin tout est un peu prévu. Mais surtout, ce qui est important, c'est le rapport avec les migrants. Donc finalement, dans ce Marcom de l'avenir, les migrants finalement sont partis d'eux-mêmes devant la révolution de l'Europe en train de se construire. En plus, j'ai prévu dès le départ que les normes allaient freiner considérablement la naissance d'une Europe unie, puisque ce qui est effrayant, c'est que dans ce roman, on voit que les gens se préoccupent de traiter les bordures de trottoirs, des réunions énormes, pour rien du tout, alors que le principal, c'est-à-dire la construction de l'Europe, n'est pas envisagée. Donc en réalité, d'ailleurs, elle n'est toujours pas envisagée, puisque finalement, elle est totalement fragmentaire et peu...
L'exemple type avec le Brexit, notamment. Alors, cette fois, vous êtes passé d'une science-fiction, on va dire, presque un peu positiviste de base, à tout de suite une négative.
Voilà, donc de toute façon, finalement, en réalité, on peut le dire qu'on ne peut pas faire de science-fiction sans... La science-fiction utopique, c'est assez difficile à faire, bien que ça n'est pas forcément impossible.
Le verre est dans le fruit.
Mais enfin, il est évident que quand il y a des problèmes constructifs entre les antagonismes, c'est quand même beaucoup plus facile dans une dystopie de créer un suspense, quelque chose d'aventure assez forte, etc. Donc dans ces romans, finalement, j'ai montré à la fois, si vous voulez, parce que comme je suis très influencé par le surréalisme, et j'ai voulu à la fois montrer quel pouvait être l'avenir de l'Europe par rapport à ce que je pensais que ça pouvait être, et par ailleurs aussi j'ai introduit beaucoup de la science-fiction à partir de l'imaginaire. De ce sens que par exemple, il y a le héros principal, qui est un jeune homme qui s'appelle Sahel Sessieux, qui est le fils d'un des grands patrons de Marcom, et qui va avoir des problèmes considérables pour essayer de s'exprimer et de devenir un être à part entière. Et finalement, il va arriver à créer un tout de lui-même en assimilant des petites particules, des petits insectes microscopiques qui vont recréer sa personnalité et qui vont lui permettre d'exister à part entière comme un être tout à fait différent que des humains qui existent aujourd'hui et qui peut lui permettre de créer vraiment un avenir, je ne dirais pas heureux, mais un avenir construit et bien équilibré.
Sous forme un peu de nanite.
Comment?
Sous forme un peu de nanite, on pourrait dire, par exemple.
Non. Disons que, en général, ma science-fiction est assez libidinale.
D'accord.
Alors, à partir de là, bon, évidemment, bah,
on est en quelle année?
On est dans les années 70, c'est-à-dire c'est la pleine expansion de la science-fiction.
L'âge d'or.
L'âge d'or de la science-fiction française. Puisque... la collection Ailleurs et Demain fonctionnait fort bien, aussi bien avec les romans américains. C'est là quand même que Dune est sortie, les principaux livres américains. Donc, après la suite des grands fondateurs de l'âge d'or, c'est-à-dire Von Vogt, Brown, Shakley, etc. Donc il y a eu toute la suite avec Herbert et puis tous les autres qui ont suivi. Clark, qui a repris, donc on est en parallèle, et là c'est extraordinaire parce que finalement, contrairement à ce qui s'est passé par la suite, dans cette collection, s'est créé je ne sais pas combien de collections, beaucoup trop d'ailleurs, qui fait que finalement.
Le marché s'est écroulé.
Elle est morte d'elle-même, surtout qu'il y a eu de nommé Bernard Blanc qui a voulu inventer la science-fiction politique française. Cette science-fiction politique française était vraiment une charge d'ennui considérable qui a un peu ruiné un peu ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire de mêler à la fois l'imaginaire scientifique, l'expertise sociologique, la prise en compte de l'évolution de la société, donc la prise en charge des individus, comment ils pouvaient se comporter à travers des sociétés qui évoluaient. Et donc dans la science-fiction politique française, tout ça n'est pas pris en compte, c'est simplement à bas les CRS.
L'année 70, 69, t'étais pas loin.
Voilà. Donc, 68, évidemment. Bon, enfin, on a continué, nous, à faire une science-fiction qui était vraiment en phase avec ce qu'on avait envie de faire depuis le début. Et donc, je n'ai jamais vraiment dérogé. Quoique, quand même, à cette époque-là, il y avait tellement de demandes que j'ai écrit quand même quelques romans complètement farfelus, dont un qui s'appelle Ruth dans l'espace, que j'avais commencé à écrire avec André Rouelland. Donc on habitait l'un à côté de l'autre, moi j'étais à Tivoli, il était à côté près des Halles, et on se réunissait une fois par semaine, et on discutait du roman en train de se faire, autour de grandes banquets d'huîtres, et d'une grande libation, et on discutait pendant des heures sur un mot. Par exemple, à un moment donné, je disais, l'astronef s'en va vers le nadir. Non, le nadir n'existe pas. Alors, on passe des soirées entières à parler de la direction dans l'espace par rapport, quand on sait, il y a l'est, l'ouest, l'or, le nadir et le zénith. Je me dis, non, ça n'existe pas, donc c'était des soirées entières. Donc, finalement, au bout de 2 ans, on avait accouché de 50 pages, et des années plus tard, j'ai dit, tiens, ces 50 pages, ils sont vraiment complètement du space-opéra imaginatif. On a écrit Ruth, j'ai écrit tout seul Ruth dans l'espace. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est mon meilleur roman. En dehors de quelques expériences dans ce genre-là, j'ai continué donc à écrire de la science-fiction telle que j'imaginais. C'est d'ailleurs vraiment une expérience de plonger dans l'avenir, c'est-à-dire, moi je suis en train de faire beaucoup, je fais aussi parallèlement, comme j'ai été photographe professionnel, je fais aussi beaucoup de collages, que j'appelle des décollages, parce que finalement, comme tout est transformé en pixels, donc c'est des arrachés d'images. Et donc je me suis rendu compte que finalement, en faisant des collages, on fait à peu près la même chose que dans l'écrit de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on pose des éléments du futur qui ne sont pas encore arrivés, et on arrive à transformer la société à partir d'une possibilité de changement complet de société par rapport à une invention, par rapport à une situation sociologique particulière. Et donc finalement, la science-fiction pour moi c'est aussi une sorte de collage, et c'est un sujet que j'ai pratiqué. Donc de toute façon, il y a toujours une grande part imaginaire, peut-être un peu trop, dans la science-fiction qui est quand même vraiment très soumise à l'inventivité en dehors de la science. Finalement, bon, souvent d'ailleurs, les gens disent que je n'écris pas de la science-fiction. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe.
Et qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que ça va être de prendre de la distance par rapport à tous les faits que vous pouvez voir sur le monde de manière générale, ou est-ce que ça va être plus une information en particulier, un détail?
Oui, c'est-à-dire que finalement, c'est à partir souvent d'un détail que tout va bifurquer. Donc il suffit qu'il y ait un petit élément tout à fait nouveau qui s'introduit à l'intérieur d'une situation qui est déjà un peu en forme de déséquilibre, pour que ce déséquilibre s'amplifie à cause d'une petite invention particulière qui va tout d'un coup perturber entièrement le monde. Par exemple, là, dans l'histoire de Marcom, à partir du moment où l'Europe s'enferme dans une coupole franchissable, où on ne peut pas pénétrer, c'est un espèce de mur de force, déjà j'introduis quelque chose de très particulier, puisque d'une part, il y a ce que j'appelle les pays, c'est-à-dire les pays en voie de développement autour, qui évoluent de manière différente, complètement, et par ailleurs, au contraire, du fait cette espèce de cloche à fromage qu'ont instauré les Européens pour se protéger de l'immigration qui est en train de venir. Parce que j'ai toujours prévu, déjà dans les années 50-60, que nos ex-colonies qui avaient été francisées, dans lesquelles finalement la Révolution française voulait apporter des bienfaits extraordinaires, ça n'a pas été une réussite extraordinaire, mais que tous ces gens avaient été, enfin une grande partie de la population africaine et des autres colonies avaient complètement évolué par rapport à leur primitivisme. Et donc, un jour ou l'autre, il a dit, ben, finalement, nous, on est français, donc ils sont venus, et donc que la migration allait nécessairement devenir un des problèmes principaux de l'Europe. En plus, bon, c'est vrai que il y a une espèce de masochisme européen qui fait que ce que j'ai pensé, cette espèce de pression de décadence est un peu imprégnée à l'intérieur de la plupart des nations européennes et que ça ne facilite pas l'évolution de l'Europe parce que finalement il y a quand même une espèce de vague à l'âme permanent qui existe chez les Européens qui font que la construction n'arrive pas à se faire et que chacun reste dans son monde, finalement, un peu cette espèce de cloche à fromage du Marcom, elle se répand à travers le souverainisme de chacun des pays.
Entre le spleen et l'idéal, dirons-nous.
Et pour... Enfin, bon, disons que...
Et donc, si on continue votre chronologie, donc on était dans les années 70 à peu près.
Oui.
Et dans les années 80-90.
Alors après, donc, j'ai écrit d'autres romans de science-fiction. J'ai écrit beaucoup de nouvelles, surtout chez De Noël. Donc j'ai écrit cinq recueils de nouvelles. Parce que finalement, comme c'était assez difficile de trouver, j'avais écrit trois romans sur l'Europe. Et je ne voulais pas continuer éternellement à écrire sur le sujet. Et donc, finalement, j'avais tellement d'idées dans la tête que je ne voulais pas, je pouvais pas écrire 200 romans en même temps. Donc j'ai publié environ une quarantaine de nouvelles dans des recueils qui s'appellent aussi bien « Comment devenir invisible en cinq leçons
»,«
Regarde fiston s'il y a un extraterrestre derrière la bouteille de vin », etc., etc. Donc là, je me suis beaucoup amusé à faire une science-fiction extrêmement inventive et diverse dans laquelle j'abordais à peu près tous les sujets, aussi bien de sujets spéculatifs, pas mal de sujets autour de la photographie, parce que la photographie est quand même quelque chose qui me préoccupe énormément, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Dans un livre que j'ai écrit, qui est la littérature générale, qui s'appelle « Attention les yeux », dans lequel le personnage principal est un photographe forain, c'est-à-dire à l'époque, il y avait sur les grands boulevards des gens qui photographiaient des gens dans la rue et qui vendaient leurs photos. Et donc, il faisait à la fois ça et en même temps, il créait des romans photos. Et ses parents avaient disparu, donc c'était un orphelin total. Et donc, il avait eu une idée spéculative qui était de créer une famille. Donc, il avait réuni autour de lui des acteurs et des personnages un peu louches avec lesquels il vivait. Et donc, c'était aussi un roman dans lequel, finalement, ce n'était pas famille, je jouais, mais famille n'existe pas. Donc, c'était une espèce de démonstration comment, à partir d'une construction purement imaginaire d'une famille, petit à petit, on voyait cette destruction qui s'organisait au fur et à mesure que les antagonismes naissaient entre les différents personnages qu'il avait réunis, qui, a priori, n'étaient pas des gens d'une même famille, mais des gens divers, et qui, en se réunissant autour d'une famille, se disloquaient petit à petit. Donc, c'était un roman que j'avais écrit qui était intéressant parce que, justement, j'avais pris le parti d'écrire, pour la seule fois de ma vie, un scénario complet. Et après, j'ai pris un appareil photographique. Pour la première fois, j'ai pu m'acheter un Leica. Et je suis parti sur les traces de mes personnages qui étaient en situation. Donc, ça se passait à la fois du côté du boulevard Perret, sur les grands boulevards, du côté d'Ivry. Et donc, je prenais des photos des gens en situation dans les endroits où mon scénario déroulait. Et c'est là où j'ai vu l'extraordinaire chose qui se passe dans la photographie. C'est-à-dire qu'il y a, particulièrement dans ce roman, le moment où on pense la photo, donc on imagine ce qu'elle sera, il y a le moment où on la prend, à ce moment-là, on a une espèce de vision qui correspond théoriquement à ce qu'on voudrait, et après, quand on la développe et qu'on la grandit, donc j'avais pris à l'époque environ 200 photos, et après ces photos, donc j'écrivais mon roman d'après.
instrument photo.
Et là, je voyais que tout ce que j'avais pensé, tout ce que j'avais photographié, était complètement différent de la réalité que j'avais inventée. Donc c'est ça qui est extraordinaire, donc, qui est complètement... Moi, je pense avant tout que je fais une littérature spéculative. Bon, il y a aussi une grande part qui a un rapport avec la science, la sociologie, etc., tout le monde, et l'évolution de la technologie. Mais en même temps, avant tout, ce qui m'intéresse, c'est d'inventer des choses qui n'existent pas.
Et ce qui ressort en filigrane, alors moi, c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est un travail de Pénélope. Vous savez, quand elle tisse en disant « Oui, je me marierai avec toi, mais une fois que dans l'Iliade et l'Odyssée, une fois que j'aurai terminé la tapisserie. » On dirait que vous aimez, vous êtes un peu, on dirait que vous aimez construire, créer, pour mieux déconstruire et en plus je vous ai pas lu, hein, du coup peut-être que c'est un jugement de valeur et que je me plante totalement. Et du coup, on a l'impression que vous aimez construire, créer, tisser des liens, et après tirer les ficelles pour que tout s'enlève et tout découle, et voir à la fin ce qui se passe et ce qui en résulte. Alors qu'est-ce que vous pensez de mon interprétation qui est complètement...
Il y a aussi une chose, c'est surtout la fin des mythes. Par exemple, il y a eu deux grands mythes en science-fiction, c'était l'extraterrestre. Et à un moment donné, dans la science-fiction aussi bien américaine, anglaise, canadienne, française, les extraterrestres ont disparu. C'est pour ça que j'ai écrit « Regarde Fistance, il y a un extraterrestre derrière la bouteille de l'eau ». Et puis, des années plus tard, au début des années 2000, je me suis dit, finalement, il y a une chose dont on parle plus, c'est les robots. Japonaise, ça traite toujours beaucoup. Et on avait fait avec Jacques Sternberg, c'est Jacques Sternberg qui l'avait créé, une revue qui s'appelait Le Petit Silence Illustré. Et finalement, j'avais, au cours de l'exposition inaugurale de la science-fiction en 1953, j'avais trouvé un robot russe, je crois qu'il était russe, un immense robot qu'on avait appelé Anatole. D'ailleurs, il y a une photo de Boris Vian près de ce robot. Dans la librairie de la Balance, c'était un immense robot, et dans lequel un personnage, après, quelques années après, avait racheté ce robot, et il était mécanique, il avait commencé à l'électroniser. Et donc j'ai retrouvé un texte de 1960 dans lequel il expliquait comment allait devenir ce robot. Et donc j'ai, dans ce nouveau petit silence illustré que j'ai écrit numéro 10, alors qu'il n'y a jamais eu numéro 9, j'ai publié l'intégralité de ce robot. Et c'est à ce moment-là que ça m'a donné l'idée de faire un roman sur le robot qui s'appelle Lothar Blues, dans lequel justement j'ai imaginé une autre sorte de robot que celle qu'on imaginait.
Okay, la
c'était aussi en 2005.
D'accord.
Donc là, si vous voulez, le problème c'était justement de prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire au lieu de voir des robots qui étaient des humains, il y avait un peu, si vous voulez, dans tous mes romans, il y a toujours un moment de chute absolue. J'appelle ça les années de chien, c'est-à-dire des moments où vraiment il y a une rupture de la société. Dans un roman qui s'appelle Le Dormeur s'éveillera-t-il, je montre justement comment tous les souverainismes, les anarchistes, les zadistes qui n'existaient pas encore, ont pulvérisé la société et ont transformé en espèce de déséquilibre permanent. Et donc là, il s'est passé dans les années de chien que finalement les parents ne savent plus élever leurs enfants. Et donc il y a eu une chute absolument vertigineuse de l'éducation des enfants. Et donc on a inventé des nouveaux robots. C'est des robots de vente. Ils ont une enveloppe, mais leurs muscles sont des muscles de vente, etc. Ils sont entièrement animés par un souffle. Mais par contre, ils ont une connaissance à la fois de l'histoire de l'humanité et du monde en train d'avancer. Et donc, finalement, à un moment donné, on arrive à rattraper la société parce que ces nouveaux robots vont leur donner des enfants. Et donc, ils vont créer une nouvelle société à partir d'enfants entièrement réformés, que les parents n'ont pas su éduquer, et qui vont transformer la société et la faire revivre. En même temps, l'Europe est en train de se construire, donc là on n'est plus à 17, on est à 47, et donc c'est extrêmement compliqué. Donc finalement, à partir de ce moment-là, les gens, petit à petit, n'ont plus envie de travailler. Donc il va se passer une chose, et il va y avoir donc deux écoles, c'est-à-dire d'école d'extrême droite dans lequel on veut absolument supprimer les robots et remettre les gens au travail, et puis alors des anarchistes d'extrême dans lequel on veut absolument supprimer le travail. Et donc on va réinventer des nouveaux robots qui s'appellent les premiers robots s'appellent les quasi, et les seconds s'appellent les simili. Et ces simili vont remplir toutes les tâches humaines. Et à ce moment-là, le travail ça sera 4 heures pendant 4 jours dans la semaine. C'est pour ça que les gens s'appellent des tesséristes. Tesséristes, c'est 4 en grec. Et donc, il va y avoir une lutte d'influence entre les robots qui vont évoluer, parce que finalement, ces robots vont finalement avoir petit à petit un inconscient. Puisque finalement, ils sont basés sur des disques virtuels et qui emmagasinent des idées qui sont sous-jacentes, et finalement, petit à petit, il va y avoir non pas une révolte des robots, mais une prise de conscience de leur valeur par rapport à l'être humain. Et donc, il va y avoir une espèce de lutte intérieure entre les gens qui veulent supprimer le travail, ceux qui veulent remettre les gens au travail, les robots qui veulent avoir leur place dans la société. Et en même temps, il y a toute une histoire assez particulière parce qu'il y a un extraterrestre bizarre qui a atterri et qui va faire en sous-main des choses extrêmement bizarres. Donc c'est un roman. De manière, c'est un de mes romans les plus complexes qui est une lecture qui est un peu difficile. J'avais fait aussi un roman que j'aime beaucoup, qui était un peu, qui se passait à Pantin. Donc c'était, j'avais beaucoup aimé Stalker, qui était un roman qui me paraissait une hypothèse extraordinaire. Et j'avais pensé qu'on pouvait faire mieux. Et donc j'ai écrit un roman qui a eu plusieurs noms. Le roman s'appelait Congo Pantin, qui se passait à Pantin, mais qui a été changé à un moment donné, puisque Jacques Chambon n'aimait pas ce titre, et qu'il l'avait appelé, comment s'appelait-il déjà, il voulait l'appeler L'aile noire. Et j'ai appelé Les évadés du mirage. Et là, c'était aussi un roman assez particulier parce que donc ça se passait à Pantin. J'avais fait aussi une enquête photographique à Pantin, parce que c'était un vieux Pantin dans lequel j'imaginais qu'il y avait déjà une religion mixte musulmane-chrétienne, dans lequel Dieu était, Jésus était au moins aussi fort qu'Allah, c'était à peu près pareil. Et donc, déjà, il y avait une espèce de mouvement particulier. La religion. Et par ailleurs, il y avait deux personnages, un Zaïrois, des Zaïrois, l'un qui s'appelait donc, qui était Congo Pantin, et qui, une aile noire s'écrasait sur la zone et créait la même zone que Stalker. Et il y avait aussi donc une recherche très dangereuse, parce qu'on trouvait dans cet endroit des inventions extraordinaires. Mais évidemment, c'était extrêmement dangereux, il y avait un nombre de morts considérable, sauf Congo, qui lui-même avait une faculté de comprendre les pièges sournois de l'espace, de cette aile noire qui s'était écrasée, pour retrouver des objets qu'il revendait avec son ami Zahir. Mais en même temps, les extraterrestres, on ne savait pas exactement s'ils existaient ou pas. C'était des êtres un peu nébuleux qui vous serraient la main dans la rue. Mais qui est aussi un peu comme dans les tsalks de mon premier roman, Le ressac de l'espace, apportait le bonheur. C'est-à-dire que dès qu'il vous serrait la main, tout d'un coup, donc la population de Pantin était devenue harmonieuse, heureuse, etc. Et en même temps, il y avait cette recherche des objets bizarres, parce qu'on ne savait pas exactement ces extraterrestres qui ils étaient, parce qu'ils ne parlaient pas. Et il y avait ces objets. Alors c'est un roman très très littéraire. Dans la littérature de science-fiction et dans la littérature générale, c'est avant tout le style d'écriture et je dois dire que je mets beaucoup, beaucoup de force dans l'écriture. Pour moi, c'est. Parce que je pense que c'est par l'écriture, par le style, qu'on peut faire passer des idées qui ne passent pas autrement.
Tout à fait. Et peut-être une dernière question avant de conclure. Allez, on va se faire plaisir. Quelle serait ou quelle est la thématique actuellement que vous travaillez au niveau de l'écriture dans vos futurs romans ?
C'est un roman utopique. C'est-à-dire qu'à partir du moment, vous savez qu'on a découvert un continent, un sixième continent, qui est constitué quantité de plastique et de cochonneries qui s'accumule dans l'océan Pacifique Nord.
Le soupe de plastique.
Donc il y a des gens qui ont, par force de lobbying, réussi à acquérir par l'ONU ce continent et qui finalement vont trouver un moyen de réunir ces blocs de plastique avec de la colle et du béton allégé pour créer un continent utopique. Donc là, il n'y a que les anarchistes et des zadistes et enfin, tous des personnages extrêmement pour le progrès de l'humanité qui vont créer cette utopie. Et évidemment, mon roman commence au moment où l'utopie décline. Parce que finalement, au bout d'un moment, ils sont tellement heureux qu'ils ne font pas ça pour rien. Et que toute cette société a vécu de son. Parce que c'est vraiment des gens d'une inventivité considérable. Ils vivent de la vente. D'inventions informatiques qui vendent dans le monde entier. Mmh. Et petit à petit, leur qualité s'étiole, et donc j'en arrive au moment où le créateur, parce que les personnages s'appellent tous les personnages de Jules Verne, c'est Robur, etc.
Michel Strogoff.
Robur est mort, lui, il ne reste plus que Servadac, etc. Et ils veulent reprendre en main l'utopie. Et Robur, trouvant que le monde allait s'effondrer, a eu l'idée d'amener un futur dictateur. De toute façon, en disant, en pensant que la seule façon de réveiller les gens, c'était d'amener la dictature pour amener la révolution. Voilà. J'en suis.
Eh bien,
merci.
D'abord, pardonne-moi de m'être trompé d'heure. Bon, ce serait toujours incorrigible, mais je vois que j'ai été remplacé avec beaucoup d'avantages.
Oui.
Avec beaucoup d'avantages, et j'étais passionné par ce qui s'est dit. Et je me dis finalement, c'est déjà un plaisir, un bonheur de te lire, mais encore plus de t'entendre.
Vous avez un réel talent de conteur et je vais vous lire, je vous promets.
Voilà.
Merci.
Merci. Merci.